Alors, Manon Levac est professeure au département de danse de l'UQAM. Elle a une expérience de plus de 30 ans comme interprète en danse contemporaine. Avec le projet abécédaire biographique de Mon corps dansant, Manon Levac a entrepris une recherche-création sur les savoirs multiples et la mémoire corporelle mise en œuvre par l'interprète dans sa danse. Ce projet s'inscrit dans celui de l'abécédaire du corps dansant dirigé par André Martin, toujours au département de danse, pour lequel Manon agit aussi comme co-chercheur et conseillère artistique. C'est également comme conseillère artistique à la création chorégraphique pour les objets vêtements qu'elle participe à Tailleur Habitus, un projet de recherche de Marie-La Sobeck sur les liens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre architecture et vêtements. Alors, à travers ces projets, Manon Levac porte une attention particulière à la contribution du danseur en processus de création. Et le titre de sa communication, s'il n'a pas changé,
c'est le même.
C'est « Images du corps imaginaire pardon, du geste dansé ».
Donc, dans chaque aspect de son travail d'interprétation, le danseur construit et reconstruit une image de son corps et sollicite sans cesse son imaginaire dans le mouvement. Dans la présente communication, j'aborderai en premier lieu le caractère mobile de l'image corporelle chez le danseur et je présenterai ensuite brièvement les concepts de schéma corporel et d'image du corps pour continuer sur deux exemples de ma pratique de danseuse. À l'aide de ces exemples, je vise à montrer de quelle manière des imaginaires du corps et du geste sont à l'œuvre dans l'interprétation en danse. Exposé à différents mobiles corporels depuis sa formation et tout au long de sa pratique professionnelle, le danseur possède un schéma corporel stable, mais une image du corps sujette à de fréquentes modulations. Les valeurs véhiculées par une formation, les caractéristiques esthétiques propres à toute chorégraphie, proposent des projets corporels qui, pour s'actualiser, requièrent adaptation et appropriation de la part du danseur. À propos de formation, Marie Glon, historienne en danse, indique « La mise à jour des références et des idéaux qui sous-tendent un enseignement, ainsi que les multiples possibilités de négociation avec ce modèle, rendent à l'image du corps son caractère mobile, perpétuellement reconstruit au fil des expériences et des interactions entre la norme sociale et l'individu. » C'est ainsi qu'au fil de ma formation et de ma pratique, j'ai développé une représentation de mon corps qui, encore aujourd'hui, se raffine et se complexifie, une image qui, bien qu'intégrée, n'est pas figée. Circulant du dessin au plan, à l'arborescence ou à l'étoilement de sensations, oscillant entre le fragment et le système, je me représente mon corps tout autant que je le ressens en un kaléidoscope de lignes directionnelles, volumes, masses et textures diverses. Si, au début, mes années de formation en ballet, par des valeurs de fluidité, de stabilité, de clarté et de projection du mouvement, ont contribué à l'inscription de l'image d'un corps délié, musclé, fortement investi dans le travail des jambes, un corps se déployant avec harmonie, amplitude et aisance dans le mouvement et dans l'espace, plus tard, des expériences professionnelles m'ont amené à cultiver dans certaines chorégraphies un corps tourmenté, en lutte constante, et dans d'autres, un corps affaissé et mou. En somme, un parcours d'interprète, soutient Marie Glon, devient un jeu subtil et passionnant entre des images différentes, des rejets et des découvertes qui l'amènent à réinventer une image de son corps. Tiré de mon parcours, je vous présente aujourd'hui deux exemples d'images de corps fort différents. Un premier exemple, celui d'une image d'un corps tourmenté dans le solo final de la pièce « Le ciel brûlant des heures » du chorégraphe montréalais José Navas. Et un second exemple, celui d'une image de corps affaissé dans la pièce « Désirabilis » de la chorégraphe belge Karine Pontiès. Ces deux pièces ont été créées en 2005 pour la compagnie Montréal Danse. J'ai participé au processus de création et j'ai dansé ces deux pièces à maintes reprises de 2005 à 2009. Je vous présenterai comment s'est construit l'imaginaire nourrissant mon travail d'interprétation et comment ont interagi imaginaire du geste et image du corps. Mais auparavant, il convient, lorsqu'on parle de corps en mouvement, de préciser deux concepts importants et reliés, soit ceux de schéma corporel et d'image du corps. L'image du corps, vivante, dynamique, est sans cesse nourrie des sensations et perceptions qui parcourent l'interprète, des souvenirs et émotions qui l'imprègnent, des chorégraphies qui l'habitent. En cela, la représentation personnelle qu'a le danseur de son corps englobe par son repérage cartographique des notions de schéma corporel et par ses références aux sensations et au vécu des notions d'image corporelle. Car l'image intégrée que l'interprète a de son anatomie se rapporte à ce que le neurologue et philosophe Paul Schilder a défini comme le schéma corporel, cette image tridimensionnelle que chacun a de soi-même. Il s'agit, selon Sean Gallagher, de l'ensemble des capacités et des habitudes motrices qui déterminent de manière dynamique la posture corporelle et l'espace des mouvements possibles. S'actualisant dans le mouvement de façon automatisée, notamment par la proprioception et la coordination, le schéma corporel est considéré comme une structure fondamentale et une représentation préconsciente du corps humain. Toutefois, comme le souligne ce même Sean Gallagher et Jonathan Cole, si le schéma corporel échappe généralement au contrôle, il est tout de même possible, dans l'apprentissage et la pratique du mouvement, de canaliser son attention afin de percevoir consciemment ce que l'on fait. C'est par cette attention ciblée, permettant de recueillir des informations visuelles, tactiles et proprioceptives, que le danseur nourrit partiellement la représentation de son corps dansant sous la forme d'une cartographie tridimensionnelle. Ainsi, en interaction constante avec le schéma corporel, se retrouve également, dans la conception de l'anatomie du danseur, l'image corporelle. Cette dernière, selon Pascal Ludwig, repose sur des représentations conceptuelles complexes qui comprennent des états de différentes origines: perception, souvenirs, croyances, émotions. Pour la psychanalyste Françoise Dolto, l'image du corps est totalement inconsciente et imbriquée au vécu corporel et relationnel. Dolto souligne que si le schéma corporel est en pratique le même pour tous les individus de l'espèce humaine, l'image du corps, par contre, est propre à chacun. Elle est liée au sujet et à son histoire. C'est une image dynamique de soi qui peut être morcelée et souvent contradictoire. Un autre psychanalyste, J.D. Nasio, tient l'image du corps pour la substance même du moi. Il affirme « Nous ne sommes pas notre corps en chair et en os, nous sommes ce que nous sentons et voyons de notre corps. Je suis le corps que je sens et le corps que je vois. » Notre moi est l'idée intime que nous nous forgeons de notre corps, c'est-à-dire la représentation mentale de nos ressentis corporels, représentation changeante et fluctuante, sans cesse changeante et influencée sans cesse par notre image du miroir. C'est donc dire que pour Nasio, notre moi, en tant qu'entité imaginaire et subjective du sentiment d'exister, est aussi image du corps. Une image elle-même composée de deux images indissociables, les images mentales de nos ressentis physiques et l'image spéculaire de notre apparence, de l'apparence de notre corps. À l'inverse de Dolto, qui ne conçoit d'image du corps qu'inconsciente, Nasio considère une image du corps faite d'images mentales, inconscientes, mais qui peuvent devenir conscientes ou motrices. Il précise aussi que les images formées par nos sensations sont non figuratives et évanescentes. L'image d'ensemble de nos ressentis physiques, souligne Nasio, est en fait un patchwork de micro-images disparates. Dans un concept particulièrement opérant au regard du corps dansant, Nasio associe les images mentales de nos ressentis physiques au corps ressenti ou au corps réel. ce corps réel est force, intensité, mouvement de vie et se présente dans son ensemble en une image du corps mosaïqué. Il est, et je cite, « tout à la fois corps de sensation, corps de désir et corps de jouissance ». Cette force vive éclatée, se nourrissant de sensorialité, de dépenses d'énergie et de rapport à soi et à l'autre, se trouve au cœur de la danse. C'est pourquoi, dans l'étude des exemples tirés de ma pratique, j'aborderai peu l'image du corps en tant qu'image spéculaire, ce qui orienterait mon regard vers des considérations pratiques et esthétiques. Bien que l'image spéculaire soit irrémédiablement liée à l'image du corps ressenti, je me référerai plutôt à cette deuxième image, celle du corps ressenti, plus proche du corps sensible et dansant que j'engage dans mon travail d'interprétation. Dans un premier extrait, je présente l'image d'un corps tourmenté, presque sauvage, et en lutte avec lui-même et l'espace dans lequel il évolue. La construction de cette image du corps a reposé autant sur la particularité du processus de création que sur l'imaginaire émotif, sensoriel et spatial mis en œuvre dans mon mouvement dansé. C'est à partir de trois de mes textes, fragmentés et découpés, que le solo final de la pièce « Le ciel brûlant des heures » de José Navas s'est élaboré. Au tout début du processus de création de cette pièce sur les relations de couple, le chorégraphe m'a demandé de produire de courts textes sur des images, sur des histoires d'amour passé. Il a sélectionné des bribes et m'a demandé de créer des séquences de mouvements inspirées de ces fragments. En des allers-retours entre lui et moi, se sont élaborées plusieurs cellules gestuelles et chorégraphiques. Ces séquences éparses ont ensuite été structurées en une longue succession, le solo d'une dizaine de minutes, dont je vous présente à environ 2 minutes. Puis, Navas a organisé cette succession de séquences dans un espace défini par un cercle de lumière que je traversais de part en part ou que je longeais sur son pourtour. Au cours de ce solo, jamais je ne devais franchir la frontière symbolique délimitée par le cercle de lumière. Suite à cette mise en espace, Navas m'a demandé d'augmenter l'amplitude et la vitesse du mouvement jusqu'à développer ce solo en une ronde folle et excessive. Et obsessive. Ce dispositif de création a mobilisé mon imaginaire de plusieurs façons. Parce que morcelé et dégagé de toute logique narrative, le matériau écrit dont je me suis servi pour générer la gestuelle a présenté mon vécu comme un précipité, au sens émotif du terme, c'est-à-dire au sens chimique du terme. C'était un précipité émotif. Tout comme le sens des mots, cette émotivité a agi en filigrane de ma production de mouvement. Je me suis aussi appuyée sur des données qu'on peut considérer plus abstraites, telles que la sonorité des mots ou le rythme de la phrase. En sollicitant mon imaginaire, cette approche a éveillé ma sensorialité, a mis en jeu un travail du sensible qui ont coloré non seulement la production, mais la qualité de mes mouvements. Une fois la chorégraphie terminée, ça recommence. Donc, une fois la chorégraphie terminée, les paramètres d'espace et de temps choisis par José Navas pour ce solo ont également nourri mon imaginaire d'interprète lorsque je le dansais. L'espace clos que je pouvais facilement traverser en 5 ou 6 enjambées, la frontière lumineuse du pourtour du cercle et le reste de la scène, visible pour moi dans la semi-obscurité mais inatteignable, sont des éléments spatiaux qui ont délimité un espace symbolique fermé. Comme dans une prison circulaire, au mur toutefois invisible, j'étais renvoyée à moi-même, à mon trop-plein d'émotions, dans une finitude obsessive. En circulant sur le pourtour ou en traversant le cercle lumineux, je tournais, courais, me lançais par terre, bondissais, me tordais, vibrais. Un sentiment d'urgence me tenaillait, me portant à m'agiter fébrilement et à explorer fiévreusement toutes les zones de mon petit espace circulaire. Au fil des répétitions, l'image du corps que j'ai développé dans ce solo s'est caractérisée par un corps effervescent et parcouru de spasmes. Ma danse comporte des changements de niveau subis, par exemple entre une position accroupie au sol et une posture debout. Les changements d'orientation sont aussi nombreux et variés, de face, de dos, de profil ou en angle. Des modulations toniques oscillant entre mouvements lancés, presque rageurs, lâchés du poids dans les chutes et gestes vifs et nerveux créent un état d'agitation qui colore mon geste. La trace de blessures émotives ressurgit aussi à travers des mouvements spasmodiques dont on ne sait s'ils sont pleurs ou bouillonnements de colère. Les images mentales de ces ressentis physiques, comme les nommerait Nasio, produisent une corporéité fiévreuse, une image du corps qui tient en grande partie au mode de composition chorégraphique basé sur le collage de séquences gestuelles éparses. À cela s'ajoutent les souvenirs émotifs, la sensation d'enfermement dans un espace circulaire, de même que l'urgence et la rapidité du mouvement. Autant de facteurs contribuant à un corps tourmenté, presque sauvage, qui, paradoxalement, se manifeste grâce à une maîtrise importante du dosage de l'énergie du mouvement. Voici donc un premier exemple de la façon dont on interagit imaginaire et image du corps dans le processus de création et dans mon interprétation sur scène. Dans mon deuxième exemple, la création de mouvements n'est pas amorcée à partir de mots ou de souvenirs, mais à partir d'une photo. L'imaginaire mobilisé par le sujet de cette photo m'a conduite à développer l'image d'un corps affaissé, une verticalité relâchée. Un des nombreux modes opératoires utilisés par la chorégraphe Karine Pontiès lors de la création de Désirabilis a consisté à inviter les danseurs à développer des séquences gestuelles à partir d'images qu'elle proposait. Elle me remet la photo d'un kangourou allongé. J'ai d'abord été frappée par l'aspect anthropomorphe de cette image. J'ai tout de suite vu une odalisque velue. Presque simultanément, j'ai trouvé incongru de voir un kangourou allongé, alors que je me représente cet animal bondissant ou encore debout, en appui sur ses longs pieds, comme un bipède. La longueur du museau, la puissance des cuisses, le ventre souple et relâché sont d'autres éléments qui m'ont interpellée. Puisque Karine Pontiès ne me demandait pas de reproduire l'image proposée, mais plutôt de m'en servir pour générer du mouvement, j'ai choisi de traduire ma perception par une danse debout. En mobilisant mon imaginaire personnel, j'ai tenté de refléter la qualité de repos de la posture du kangourou par un passage aux yeux clos, une attention tournée vers le dedans. De même, les mouvements d'ouverture de la bouche que j'accomplis au cours du solo visent à englober le monde extérieur dans ma quiétude intérieure. Au long de cette danse, j'évolue dans un état semi-éveillé, dans de micro-mouvements ou encore en des plages d'immobilité, comme si le sommeil pouvait me saisir à tout moment. Quelques sursauts et des mouvements lancés de jambes et des bras troublent le calme dominant de mon solo. Dans ces passages, le mouvement se déroule en un phrasé décroissant, c'est-à-dire en une intensité et une amplitude qui diminuent graduellement pour finir à rien. L'espace de ma danse correspond à ma bulle personnelle et comporte peu de déplacements. C'est également un espace flottant, percé à quelques reprises par un mouvement direct, un tracé précis. Même si l'image présente un kangourou à demi couché, j'ai tenu à garder le caractère bondissant de cette image par de légers mouvements de rebond. Ralentis et adoucis, ces petits rebonds deviennent de tendres auto-bercements, renforçant l'impression de quiétude et de bien-être. L'image du kangourou allongé a induit pour moi une corporéité à la verticalité relâchée, aux épaules affaissées, au bassin écrasé. Une posture qui établit une relation de lâcher prise à la gravité, un poids mou qui se tient debout dans un effort minimal. À partir de la perception d'une photo donnée, ce sont la posture que j'ai choisie et l'image du corps formée par des images mentales de mes ressentis physiques qui ont irrigué le travail d'imaginaire du mouvement et du geste. J'ajouterai que l'image du corps affaissé est inusitée par rapport à ma formation et à mes habitudes posturales. Le lâcher-prise et la quiétude dans lesquelles baigne ce solo sont également fort différents des qualités du solo de l'exemple précédent. Mon solo dans Désirabilis est marqué par une corporéité plus douce qui nécessite peu d'engagement musculaire et peu de déploiement dans l'espace. Donc, en résumé, dans le solo « Le ciel brûlant des heures », un imaginaire façonné par l'affectivité a prévalu à la création du mouvement. À ce mouvement brut, se sont ajoutés des paramètres particuliers d'espace et de temps qui ont généré une corporéité tourmentée. À l'inverse, dans Désirabilis, l'image forte et insolite proposée par la chorégraphe a dès le début induit une corporéité relâchée qui, dans un deuxième temps, a nourri la production du mouvement et l'imaginaire de mon geste. À la lumière de mon expérience, ces deux exemples illustrent que dans le travail d'interprétation du danseur, imaginaire et image du corps n'établissent pas nécessairement une relation de cause à effet, par exemple que l'imaginaire constituerait le fondement de l'image du corps ou l'inverse. Il semble plutôt qu'imaginaire du geste et image du corps s'activent et se réactivent mutuellement en un jeu de relance dynamique. Un dialogue qui, au fil des années, des répétitions et des représentations de ces deux pièces en spectacle, a enrichi le travail expressif de mon geste dansé. Merci.
Donc, merci beaucoup. On va accueillir tout de suite Alain et on gardera les périodes de questions complémentaires. Donc, je vous présente Alain Ayotte, qui est candidat au doctorat interuniversitaire en histoire de l'art. Il détient une maîtrise interdisciplinaire en art de l'Université Concordia. Son projet de recherche-création comporte deux volets, dont les titres sont « Un atlas pornographique entre scienza sexualis et ars erotica » et « Secretum, atlas et album ». Il est également adjoint de recherche sur le projet d'exposition « Culture du témoignage » à l'UQAM. Son sujet de thèse portera sur l'appropriation artistique de la pornographie et l'analyse des discours théoriques s'y rattachant. Alors, je vois que ton titre n'a pas changé. Donc, « Le geste comme fantôme »,« Le geste comme fantasme »,« Agentivité esthétique » et « Pornographique d'une création théorique ».
Bonjour. Donc, j'aimerais d'abord commencer par une citation du philosophe Giorgio Agamben. Avant de vous introduire à mon projet de création, à mon approche théorique et à une réflexion méthodologique sur mon mémoire de création que j'ai fait à l'Université Concordia. Donc, geste est le nom de cette croisée où se rencontrent la vie et l'art, l'acte et la puissance, le général et le particulier, le texte et l'exécution. Fragment de vie, soustrait au contexte de la biographie individuelle, et fragment d'art, soustrait au contexte de la neutralité esthétique. Pure praxis. Mon projet de recherche-création, ce que vous allez voir ici, c'est mon projet des images que je vais vous montrer, c'est mon projet de création que j'ai fait et qui est là aussi sur la table, c'est l'album qui est là. Donc, mon projet de recherche-création au niveau de la maîtrise porte le titre de Secretum, Atlas et Album. Secretum, en latin, signifie un lieu écarté, retiré des regards. C'était également le nom de ces musées secrets, créés dans les enceintes du British Museum et du Musée des Bourbons à Naples, cachant des images obscènes de l'Antiquité. Aujourd'hui, à l'ère de la pornographie numérique et de la sexualisation de l'espace public, est-ce qu'il y aurait encore des musées secrets? Mon projet de remédiation post-pornographique s'inspire librement des scrapbooks du médecin, collectionneur et banquier George Witt, qui est né en 1804 et mort en 1869, et qui fit don de divers objets de nature érotique à la collection du British Museum. Mon projet est également un album, un journal de recherche portant sur le geste esthétique, érotique ou pornographique, qu'importe, puisque je considère que mon approche de l'image est chorégraphique. Il s'inscrit modestement dans la lignée de l'atlas Mnemosyne d'Abby Warburg, des montages de la revue de documents par Georges Bataille et d'autres scrapbooks, sketchbooks, collages, photomontages d'artistes évoquant de près ou de loin le corps de l'image. Sans doute, nous pourrions désormais déclarer que les musées secrets se présentent à ciel ouvert ou à écran ouvert dans notre culture hypermédiatique. En glanant ici et là dans les archives du web, j'ai cherché différentes variations rythmiques du geste, tout en décidant, au gré des découvertes, du tempo de chaque planche de mon album de famille anti-œdipienne. J'ai capturé ces images, ces gestes comme des fantômes, comme des fantasmes. L'histoire de la pornographie, l'histoire de la sexualité ou l'histoire de l'art ne sont pas seulement des histoires formées de textes et d'images. Ce sont avant tout des histoires de gestes. Et peut-être, en risquant un néologisme, ce sont peut-être des histoires d'imagestes. Je cite ici Gilles Châtelet. Le geste inaugure une lignée de gestes, alors que la règle n'énonce que des instructions, qu'un protocole de décomposition de l'action en actes répétables indéfiniment. Le geste possède une exemplarité historiale. Historiale, c'est un vieux mot, c'est historique, mais si l'on peut parler d'accumulation du savoir au cours de la succession des générations, on doit parler de gestes inaugurant des dynasties de problèmes. Ainsi, qu'ai-je découvert? C'est que l'histoire de la pornographie est une histoire de gestes. Cette histoire de gestes débute au 18e siècle à l'intérieur d'une histoire de l'art qui fit renaître la notion de pornographie au moment des excavations des ruines de Pompéi, d'images, de fresques, de mosaïques et de sculptures dépeignant des pratiques corporelles jugées obscènes à l'époque victorienne et contraires à une conception alors idéalisée d'une antiquité classique. De plus, cette découverte révéla que ces images n'étaient pas seulement dévolues aux espaces privés des bordels ou des chambres nuptiales, mais qu'elles étaient présentes à la vue de tous dans les espaces publics de la cité. On inventa alors les musées secrets, nommés Gabinetto Secreto au musée des Bourbons à Naples et Secretum au British Museum. Il y avait aussi des musées secrets dans d'autres musées, mais je n'ai pas les noms. Donc, afin de cacher, on cachait ces objets à une population alors jugée inapte à apprécier ces artefacts. Seuls quelques connaisseurs des classes supérieures pouvaient accéder à ces espaces surveillés, contrôlés, verrouillés, où aucune femme, aucun enfant, ni pauvre n'avait droit d'accéder. La pornographie fait donc partie d'une rhétorique muséale, hiérarchique, et se révèle, selon la philosophe Béatrice Preciado, une technique d'exclusion et une stratégie pour tracer les limites du visible entre le public et le privé. Ainsi s'arrête pour un temps une histoire d'images et de gestes où certains corps peuvent jouir de ces représentations sexuelles, alors que pour d'autres, ce plaisir demeure interdit. L'histoire de la sexualité est également une histoire de gestes. Selon Foucault, Michel Foucault, la scientia sexualis s'oppose à l'ars erotica, ou la science de la sexualité à l'art érotique. Il existe deux régimes de vérité produisant le discours sur le sexe. D'un côté, la scientia sexualis, qui base son savoir sur la production du discours par l'aveu, a permis la constitution d'une archive classifiant et catégorisant les douleurs et les plaisirs du sexe dans les sociétés occidentales depuis le 19e siècle. De l'autre, l'ars erotica, associé traditionnellement, aux sociétés orientales ou antiques, produit son savoir sur la pratique et l'expérience des plaisirs et cherche à amplifier les effets de ce savoir dans le corps et la conscience des initiés à travers différentes techniques. Ainsi, la généalogie narrative de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault se termine à peu près au moment où naissent de nouvelles technologies du visible que sont la photographie et le cinéma. À la suite de la technologie de sexe foucauldienne basée sur l'écoute, le langage et l'aveu, nous voyons une science de la sexualité se poursuivre à travers la vue, l'image et le geste. Selon la théoricienne du cinéma Linda Williams, la pornographie se présente comme une forme de scientia sexualis en tant que discours compulsif à montrer l'orgasme, exposant et produisant la vérité du corps. À la volonté de savoir s'ajoute une volonté de voir, alliant une science de la sexualité, des technologies du visible et des dispositifs de surveillance, contribuant à développer des catégories spécifiques de désir, de gestes genrés et de représentations sexuelles. Au cours de la gestation de mon projet, j'avais l'intuition que cette configuration de l'histoire de la pornographie, de l'histoire de l'art et de l'histoire de la sexualité pourrait s'appréhender de manière interdisciplinaire à travers la notion de geste, puisque selon Georges Didier Berman, nous ne vivons notre présent qu'à travers les mouvements conjugués, les montages de nos mémoires, gestes que nous esquissons vers le passé, et le montage de nos désirs, gestes que nous esquissons vers le futur, les images seraient alors à regarder comme les carrefours possibles de tous ces gestes conjugués. Les dernières recherches inachevées d'Abby Warburg et son atlas Mnemosyne, entre 1924 et 1929, peuvent permettre d'ouvrir les yeux sur le corps de l'image. Avec l'atlas Mnemosyne, composé de 79 planches recouvertes d'un drap noir où sont épinglées sous des thématiques différentes diverses productions photographiques, Abby Warburg cherchait à comprendre la vie des images à travers la démonstration de l'influence de l'Antiquité sur la Renaissance, italienne jusqu'à l'époque contemporaine. L'atlas se basait sur trois concepts principaux, soit les survivances, se définissant comme des récurrences dans les images à travers le temps, les formules de pathos, comme des gestes passionnels du plaisir, de la douleur ou de l'excès, et la migration, comme le voyage du corps de l'image dans l'espace et dans le temps. Ces récurrences se produisent à travers le travail de la mémoire, de l'imagination et l'heuristique du montage. Selon Carl Sirek, un théoricien des médias, Warburg, à travers son analyse du mouvement, de l'image par d'études de mouvement dans les images fixes. Cette évolution conduit à la dynamisation des regards des spectateurs et ensuite, finalement, à une conception de la mise en mouvement de la pensée des images dans l'histoire et les histoires. Ainsi, cette histoire de gestes, c'est une histoire de fantômes pour grandes personnes, selon un aphorisme d'Abby Warburg, ou par une autre traduction de l'italien au français. C'est une histoire de fantasme pour personnes vraiment adultes. Giorgio Agamben, dans son essai « Notes sur le geste », propose d'entreprendre une autre lecture de l'atlas Mnemosyne et de déplacer notre intérêt de l'image au geste. Ce n'est pas d'image qu'il devrait être question, mais de geste. De fait, toute image est animée d'une polarité antinomique. Elle est d'une part réification et annulation d'un geste, dont elle conserve d'autre part la dynamisme intacte. Le premier pôle correspond au souvenir dont s'empare la mémoire volontaire, le second à l'image qui jaillit comme un éclair dans l'épiphanie de la mémoire involontaire. Et tandis que la première vit dans un isolement magique, la seconde renvoie toujours au-delà d'elle-même, vers un tout dont elle fait partie. Même la Joconde, même les Ménines, peuvent être envisagées non pas comme des formes immobiles et éternelles, mais comme des fragments d'un geste ou comme des photogrammes d'un film perdu, qui seul pourrait leur restituer leur véritable sens. Car toujours en toute image est à l'œuvre une sorte de ligatio, un pouvoir paralysant qu'il faut exorciser. Et c'est comme si de toute l'histoire de l'art s'élevait un appel muet à rendre à l'image la liberté du geste. Fin de citation. Comment passer justement de l'image au geste, me demandais-je. Comment concevoir une autre histoire de l'art, de la pornographie, de la sexualité, comment les conjuguer? Comment repenser et augmenter notre puissance d'agir, ou notre potentia agendi, comme disent certains philosophes, ou notre agentivité, que la langue anglaise nomme agency. S'inspirant entre autres de John L. Austin, de Jacques Derrida et de Michel Foucault, la philosophe américaine Judith Butler élabore une influente théorie du genre et son concept de performativité. Selon elle, la performativité souligne la capacité du corps à imiter, citer ou réitérer le processus normatif à travers ses expressions corporelles. Mais il est impossible de copier ou de répéter la même chose dans la durée. À l'intérieur de cette impossibilité s'inscrit la puissance d'agir permettant la transformation du sujet. Cette puissance d'agir ou agentivité est un geste critique de la normalisation des corps. Cette critique, qualifiée de queer dans le champ de l'histoire de l'art, de la sexualité ou de la pornographie dite alternative, réinterprète le corps et ses images comme subversion, mais selon moi aussi comme survivance. Ainsi, la performativité chez Butler se déploie dans la durée. Cette performativité dans la durée pourrait s'apparenter à la récurrence des gestes et des formules de pathos et à la survivance chez Abby Warburg. Le geste se situe justement entre performance et performativité, entre identité et identification. C'est un potentiel et lorsqu'il s'accomplit, cela passe par le corps du sujet. Le geste ne se fige jamais, il nous échappe toujours, il est dans la dimension du faire. Donc, je vais citer Guérino Massola. Les gestes ne sont pas des faits, ils peuvent créer des faits, mais ils persistent avant et en dehors de la facticité. Cependant, tout le modus operandi de l'art, de la collaboration, est basé sur un certain nombre de mécanismes complexes permettant aux gestes de déployer l'intensité de leur action communicative. Les gestes manifestent un schéma squelettique ainsi qu'une corporéité dans un espace topologique. Ils ne sont pas seulement des gestes physiques, mais peuvent déployer leur corps dans des espaces complètement abstraits. Fin de citation. Cette perception du geste augmente, selon moi, notre puissance d'agir. Mais puisque le geste possède une agentivité, non seulement individuelle, mais collective et historiale, le geste est un fantôme, le geste est un fantasme, le geste crée des fétiches. Fétiche, F-A-I-T-I-C-H-E-S, c'est de Bruno Latour. Je vais revenir un petit peu plus tard. Le geste pornographique est pure médialité. Constamment repornographié, si je puis dire, entre médiation et immédiateté. Citation de Giorgio Agamben. Le geste consiste à exhiber une médialité, à rendre visible un moyen comme tel. Mais de même que, dans un film pornographique, une personne surprise en train d'accomplir un geste qui n'est qu'un moyen de procurer du plaisir à d'autres ou à soi-même, par le seul fait même d'être photographié et exhibé dans sa médialité même, s'en trouve suspendu et peut se transformer pour les spectateurs en moyen d'un nouveau plaisir. De même, dans le geste, c'est la sphère non pas d'une fin en soi, mais d'une médialité pure et sans fin qui se communique aux humains. Par quel moyen? Par quelle énergie le geste, considéré comme une pure force, voyage-t-il de forme en forme? Le catalogue de l'exposition « Informe, mode d'emploi » explore la notion complexe de l'informe inaugurée par Georges Bataille. Au moment où il était rédacteur en chef de la revue « Documents » à la fin des années 1920 et le début des années 1930. Selon Yves-Alain Bois, l'un des commissaires de l'exposition avec Rosalind Krauss, l'informe de Bataille n'est pas tant un motif stable auquel on peut se référer, un thème symbolisable, une qualité donnée, qu'un vocable permettant d'opérer un déclassement au double sens de rabaissement et de désordre taxinomique. L'informe n'est rien en soi, n'a d'autre existence qu'opératoire, c'est un performatif. Dans cette perspective, l'informe cherche à déclasser, par l'agentivité du geste, l'ordre de l'archive d'une scientia sexualis ou l'ordre de la pornographie, si on veut. L'une de mes hypothèses dans ma recherche et création et que l'on peut défaire la norme pornographique et son régime discursif du sexe en se l'appropriant par la puissance chorégraphique du geste. Ce geste, opération critique, n'est pas une simple provocation, mais un travail de réinterprétation, comme on dirait d'une réinterprétation musicale, de la scientia sexualis. C'est une tentative expérimentale d'inventer une forme d'art érotique ou d'ars erotica par le montage, tout en rendant la norme pornographique informe. Selon moi, c'est une portée visuelle qui se compose, recompose et décompose au gré de la résonance charnelle et de la force orgasmique. Et c'est peut-être aussi un art pornographique. Dans son essai sur la pornographie, Susanna Passonen élabore le concept de résonance charnelle. Sa définition va comme suit. La résonance peut impliquer une reconnaissance dans le sens d'être en mesure de rapporter des actes représentés à ses propres expériences, à ses propres sensations. La résonance touche et met en mouvement le corps du spectateur sans avoir besoin de similitudes entre le spectateur et les artistes, entre les préférences sexuelles de l'observateur et les actes accomplis, ou ses fantasmes et les scénarios à l'écran. Les expériences de la pornographie peuvent impliquer le rythme plutôt que la narration. Plutôt qu'une identification, la résonance est ressentie dans le corps comme une similitude imaginaire qui fait fondre les frontières entre le soi et les caractères à l'écran. Délaissant le regard distancié, la résonance saisit le spectateur en variant et modifiant l'intensité, la concentration et l'attention. Fin de citation. La résonance charnelle nous invite à voir le corps de l'image pornographique comme une construction rythmique, chorégraphique, pleine de puissance, de potentiel, esthétique, oui, et évidemment politique. Warburg n'est pas loin. Cette résonance charnelle est selon moi guidée par ce que Béatrice Preciado nomme la potentia gaudensi. Début de citation. Je nomme potentia gaudensi ou force orgasmique la puissance actuelle ou virtuelle d'excitation totale d'un corps. Cette puissance est une capacité indéterminée, elle n'a pas de genre, elle n'est ni masculine ni féminine, ni animée ni inanimée. Elle ne s'oriente principalement ni vers le féminin ni vers le masculin. Elle n'établit pas de séparation entre hétérosexualité et homosexualité, entre l'objet et le sujet. Elle ne connaît pas non plus la différence entre être excité, excité ou s'exciter avec. La force orgasmique ne cherche pas la résolution immédiate. Elle n'aspire qu'à se déployer dans l'espace et dans le temps, vers tout et vers tous, en tout lieu et en tout moment. La puissance ne se trouve pas seulement dans le corps, en tant qu'espace traditionnellement imaginé comme prédiscursif et naturel, mais dans un ensemble de représentations qui le rendent sexuel et désirable. Fin de citation. Cette force orgasmique, puissance de jouir ou agentivité pornographique peut être envisagée comme un moteur ou un révélateur de la création artistique et de la pulsion théorique lorsqu'il est question de production esthétique et politique de la sexualité. Elle exprime à travers la notion du geste qui passe d'un sexe à un autre, d'un genre à un autre, d'une pratique sexuelle à une autre, d'un médium à un autre et je dirais même d'un espace-temps érotique à un autre. En terminant, j'aimerais évoquer une agentivité hypothétique sous le néologisme de l'imageste. L'imageste est un mot valise. Il me semble que ce mot de théorie et de praxis entre agentivité esthétique et agentivité pornographique peut signifier l'aspect dynamique, chorégraphique, historial, collectif de l'image et du geste. Cela, bien sûr, reste à expérimenter dans la poursuite de mes recherches. Il me semble aussi qu'un autre mot valise, fétiche, inventé par Bruno Latour, qui est la fusion entre les faits, objectifs réels et scientifiques, et fétiches, subjectifs, illusoires, artistiques, et qui estompe la différence entre fabrication et réalité, maîtrise et création, constructivisme et réalisme, ouvrirait d'autres pistes quant aux relations entre histoire, art et pornographie. Selon Yves Citon, commentateur de l'ouvrage de Bruno Latour, le fétiche constitue une réalité qui s'affiche comme étant à la fois fabriquée par des pratiques humaines, et néanmoins dotée d'une existence autonome, indépendante de nos désirs, tout en mettant en œuvre une efficience humaine collective qui dépasse notre puissance d'agir individuelle. Le fétiche n'est pas du côté du savoir, mais plutôt du côté de la sagesse. Donc, je cite Bruno Latour. Le fétiche est ce qui fait faire, ce qui fait parler. Grâce au fétiche, pourraient dire les sorciers, les adeptes, les savants, les artistes, les politiques, nous pouvons produire des êtres légèrement autonomes qui nous dépassent quelque peu. Divinité, fait, œuvre, représentation. Grâce au fétiche, construction et vérité demeurent synonymes. Ainsi, toute recherche, toute création qui passe à travers les gestes du corps a le potentiel de devenir un fétiche. »